No, da quelques instants, on entendra John Kilburn, qui est directeur de recherche à l'Université de Texas, qui est juste de l'autre côté de la frontière de Nuevo Laredo, au Mexique. Et ils nous parleront donc de leurs efforts dans les services de santé en une langue seconde et langue maternelle. Alors, pendant qu'on attend, alors nous commençons la communication avec avec Laredo, avec le Texas. Alors peut-être que je peux présenter encore John Kilburn. Vous ne le voyez pas en ce moment, mais est-ce qu'on a l'audio avec lui? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Ah, ça fait plaisir de vous voir. Il y a un petit délai dans la vidéo. Ça fait plaisir de vous voir. J'aimerais vraiment que vous puissiez me voir. Je suis très beau en ce moment. John, on va te croire sur parole. Alors, quelques mots sur votre présentation qui s'appelle Traversée pour des services de santé. J'imagine que vous parlez ici de traverser des frontières et je voudrais mentionner que je vois votre titre comme polysémique, si vous me permettez un petit jargon ici, dans le sens que vous pouvez traverser des frontières pour servir des services de santé, et également passer des frontières linguistiques, des frontières sociales. Il y a toutes sortes de traversées possibles et nécessaires, des fois, pour avoir accès aux services de santé. Merci bien. Tu me connais très bien et c'est ce que je voulais dire exactement. Alors, j'ai 8 minutes pour vous parler de traversée pour des services de santé. J'ai Madame Gabriela León avec moi et Fernando Quintana et Maria Romero-Ramirez qui ont également participé avec ce projet. Une partie du moteur de Renault était une citation du président des États-Unis qui dit que je suis dans cette course parce que je m'inquiète pour les Américains. Je ne suis pas inquiet par les plus pauvres parce que nous avons une façon de les protéger. Pas pour les plus riches, mais plutôt les 95% de la population américaine qui sont en difficulté en ce moment. Eh bien, maintenant, je vais vous faire une présentation de Laredo, Texas, près de la frontière avec le Mexique. Et je vais vous parler d'une étude que l'on a faite en parlant avec les résidents sur le fait de passer la frontière des États-Unis au Mexique pour recevoir des soins de santé. Alors, qu'est-ce que cette déclaration par Romney a à voir avec les soins de santé? Je vous dirais qu'un très haut pourcentage de la population de cette région passe la frontière, traverse la frontière pour recevoir leurs soins de santé. Ils le font pour différentes raisons, certaines pour des raisons comme la violence des cartels et les préoccupations pour de sécurité publique. Mais je vais vous parler maintenant de pourquoi les personnes traversent. L'accessibilité, c'est plus facile d'avoir un médecin au Mexique jusqu'à un certain point. La capacité d'entrer dans le système, d'avoir accès au système, c'est certainement moins coûteux. Parfois, c'est 10% du coût. Et la disponibilité est également une partie très importante. Attendre, avoir un rendez-vous, etc. Mais le plus important, c'est la familiarité. Est-ce qu'ils se sentent à l'aise avec les professionnels de la santé? Est-ce qu'ils ont confiance en eux? Est-ce qu'ils parlent réellement leur langue? J'ai remarqué que beaucoup des présentations dans la journée parlent de réellement connaître la langue, pas seulement de parler espagnol, mais de comprendre les nuances culturelles. Et cette sensation de familiarité, de confort, qui est vraiment la partie soins dans soins de santé. Parlons alors de la démographie de Laredo, une population de 20 à 25 000 personnes, une population assez jeune en termes de la population moyenne. La moyenne de revenus est plus bas que celle de la moyenne du pays, 96,8 hispanique. Ça, c'est certainement pas une communauté très diversifiée, mais il y a peut-être moins de la moitié de la population qui ont un diplôme une secondaire. Et les taux de chômage sont bien élevés et les revenus sont très bas, mais les taux d'alphabétisme de 47%. Et ce que je veux dire par ça, c'est l'habilité de lire une prescription, de comprendre les indications d'un médecin, de pouvoir remplir une application pour un emploi. Et ça, c'est à peu près au niveau d'un étudiant d'un enfant en deuxième année du primaire.
Here by the Texas-Mexico border. It was about 39 degrees Celsius yesterday, so it's pretty hot down here. And if you look over here at the U.S.-Mexico border, we're talking about something approximately 300 meters or so to cross. This is a footbridge that can walk, so it's relatively easy to cross from the U.S. right here to Mexico. And with this bridge crossings, the North American Free Trade Agreement, pedestrian crossings have increased to some extent from 1990 to 2008, but when we start talking about commercial crossings, we've become important trade partners, crossing with air freight, rail car freight, lots of bridge revenue, which has led to a boom in Laredo. Therefore, there have been a lot of medical services that have been offered. With this population growth, Laredo has become very much a modern city with a lot of amenities and what many people would call quality healthcare in the sense of the typical American standard U.S. model. But we're still looking at the U.S. Over 20 million U.S.-Mexico border crossings are made annually for healthcare. And many of the 12 million plus Mexican-born residents of the United States are among the poorest, least insured, and healthcare costs less, ranging from 50% to 80% less expensive for procedures, for prescriptions. Is it cost? The question is, are people really crossing because of just something as simple as cost, or could it be culture? We have a study, the N of 555 over 8 census tracts. This is representative quota sample of the population in Webb County. What I want to show you here is the reason why we're talking about Webb County being so important. Let's look at the population change. Webb County, approximately 50% population growth in 8 years. These blue areas mean that there's a significant population growth. And why is that important? Look to the right here first. In the U.S., about 1.5 births of non-Hispanics for every one death. In Texas, 7 births for every one death. And when we start looking at the United States as an issue, 8 over 8 births for every one death. So it's very clear to see the youth of Texas, they're actually a larger percentage of Hispanic under 5-year-olds than there are non-Hispanics. And that basically means that the population by the year 2040, the state of Texas is going to be predominantly Hispanic ethnicity. With these issues come some of the questions. Obviously, education issues. If you look here in blue, slightly over 50% of Hispanics have high school, less than high school education, less than 10% college. But when we start talking about projected change, as Dr. Steve Murdoch, former head of the U.S. Census, likes to point out, the issue of Texas becoming more Hispanic, this is not Texas. This is the future of the United States. This is the change projected U.S. population by race and Hispanic origin. 62% of the growth from 2000 to 2050 will be Hispanic. Therefore, we thought it was really important to see these factors. Why are they crossing? And if you don't mind, for the sake of time, I'm just going to go to the fourth model, the final model here. Is it an age variable? No, it's not about being young or old, crossing over to see a physician. Could it be a gender issue? No, it has nothing to do with sex of the respondent. How about being married? No, that's not statistically significant. How about having young children? Of course, when you're worried about your young children, you want to see a care provider? No, that's not there. But there's something here that pops up quite significant and quite interesting. Children ages of 6 to 18 in the household. We don't have a great explanation for that. We're not too confident that we know the exact answer to that. This is going to need further study. To some extent, we think this is when children start school. They need their immunizations. They need more accountability and paperwork in care. One thing we've noticed is the education level. Those only having a high school diploma are much more likely to cross. As far as income variables, home ownership, how about a vehicle that would make it easier to cross? That is still not significantly related to whether people cross or not. Obviously, this is something that may not translate as clearly to folks in Canada. The U.S. in health insurance. The U.S. health insurance issues are quite complex. Those having public insurance or private insurance, or a combination of both types of insurance, are less likely to cross. So what we're seeing is some people have what they call the safety valve phenomenon, where Mexico is seen as just a place to go when you lack health insurance. But to control for this, we looked at some cultural factors, and we found that it's not just the safety valve component. Those speaking English in their household are significantly less likely to cross for healthcare services. This is not about bilingual households. It's those speaking English. We thought about length of residence in years, and while it's statistically significant, it's not a strong effect size. About length of residence and feeling of connectedness. There is some type of cultural impact that is related to crossing over for healthcare. We are still at a stage where it needs significantly more study, but we thought we'd present this in 8 minutes, and this is about what we have. I'll be glad to clarify any points or bring up other address any questions.
Well, thanks very much, John. That was great. And I don't know on your end if you could hear us, but you got quite a few laughs, I must say.
I didn't hear the laughs, but I did hear the applause.
Okay, good. Excellent. So if there are any questions for John and his team in Laredo, I would ask people to get a microphone, please. If we have a microphone at the back or to come up to the front. Do we have any questions or comments? Jan, yes. So Jan... Okay, they're setting up the microphone at the back.
Sure.
Hi, John.
Can you hear
you
on?
See you sometime. And,
yep.
Very interesting work that you've done.
Thank you.
If you could hazard to say that amongst those variables that you've shown there, that there's something called a neighborhood effect that's possibly enticing or contributing to the factor that this particular group is crossing.
À ces passages frontaliers pour obtenir des services de santé.
You know, that's the interesting thing. My background is a community and urban sociologist, if you Google me, and I wanted badly for it to be a very strong neighborhood effect.
Oui, il doit y avoir un effet de voisinage important. Toute l'idée de la sociabilisation, vous devenez un voisin américain, la taille de l'effet n'est pas aussi forte que je voulais.
We think there's something else there. Obviously, we're going to play with the data a little bit more to understand. I certainly hope it is because I
J'aimerais bien écrire quelque chose pour certaines des grandes revues, mais pour le moment, il semble que ce soit pour une revue de politique, peut-être en santé publique, parler de l'importance de l'acculturation de tous les travaux qui ont été présentés, plutôt sur les sensibilités culturelles, aller au-delà du simple fait de parler la langue. Ce que l'on a à Laredo, c'est qu'il y a bien des gens qui parlent l'espagnol, mais ils ne pratiquent pas le même type de médecine. Alors, les politiques sont importantes. On a une table ronde là-dessus il y a quelques jours. Il y a des gens du ministère de la Santé dans la salle en ce moment. L'un de nos objectifs, c'est qu'éventuellement, il faut que ça soit pertinent pour les politiques. On a des représentants des collectivités, des communautés minoritaires linguistiques. Alors, les politiques sont très importantes. Avez-vous d'autres questions pour John? Vous devez vous présenter au microphone, sinon il ne pourra pas vous entendre. Alors, c'est un intervenant de l'équipe de l'Université Bishop. Bonjour, je vous remercie de votre présentation. Est-ce une mauvaise chose qu'ils passent la frontière pour aller au Mexique? Ils obtiennent les services qu'ils veulent à moindre coût. Ils semblent être plus heureux avec cela. Je présume aussi que ça enlève un peu de stress sur le système américain. Est-ce vraiment quelque chose de mauvais? Il y a un consensus parmi les gens à table ici. Non, il y a nombre de leçons à tirer du système de soins de santé mexicain. Il y a beaucoup de choses à apprendre et il y a de meilleures efficacités là. Bon, ça n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Voilà pourquoi on doit étudier ces passages frontaliers et arrêter de penser que c'est juste pour faire des économies. S'il s'agit de soins de types différents qui ont été peu étudiés. Oui, c'est un autre thème qui est soulevé dans nos recherches aussi. Vous avez fait allusion à cela directement un peu plus tôt. Les compétences linguistiques, c'est une chose. Les compétences culturelles, c'en est une autre. Les gens, parfois, veulent aller au-delà des compétences linguistiques pour des moments importants, soins de fin de vie, soins de courte durée, urgents. Nous voulons commencer une étude qualitative pour examiner tout cela plus en détail et expliquer ces résultats quantitatifs. Avez-vous d'autres questions pour John? On va prendre une dernière question, ensuite ce sera les propos de clôture. Avez-vous des questions, des commentaires? John, vous pouvez rester avec nous si vous voulez. Je pourrais... Alors, dire quelques mots avant de vous laisser l'occasion de jeter un dernier coup d'œil aux affiches. Maintenant, pour faire des liens entre tout cela, je dirais que les résultats en matière de santé sont importants, car l'un des véritables piliers de l'égalité aux possibilités, donc l'accès aux soins de santé, l'accès à l'éducation, la sécurité physique, l'égalité devant la loi, vous avez là certains des facteurs principaux qui permettent l'égalité dans les possibilités. Je crois qu'une société équitable commence par ce principe. L'égalité des résultats, c'est une autre question. Il y a bien des facteurs qui entrent en jeu. On ne peut pas contrôler l'égalité des résultats d'une façon fine, mais on peut faire de notre mieux pour s'assurer qu'il y a une certaine égalité dans les chances. Et les soins de santé, c'est un facteur important, l'accès à la santé. Alors, tout obstacle... L'accès aux soins de santé devrait être pris très au sérieux et on devrait essayer de les aborder. La langue, c'est un des éléments, comme on l'a entendu aujourd'hui, ce n'est pas le seul élément qui pose problème. La langue est imbriquée avec nombre d'autres barrières. C'est en corrélation avec des différences dont on a entendu parler de la part de nombre de présentateurs, y compris l'équipe de la Redo. C'est en corrélation avec des différences d'éducation, de situation socio-économique, des différences spatiales aussi, comme le voisinage. Alors voilà, il s'agit d'éléments importants à considérer en tant que société. On doit se demander qui voulons-nous être en tant que société, comment atteindre notre but. L'une des choses principales que nous pouvons faire, c'est de s'assurer que tout le monde ait accès aux soins de santé. Et je crois que tous les chercheurs ici se préoccupent de cette question. Tous les groupes communautaires, tous les professionnels présents, tous les décideurs aussi partagent cet objectif. Peut-être que nous ne sommes pas d'accord parfois sur la façon d'atteindre ce but. Comme John l'a dit, différents politiciens se trouvent dans des camps différents. Ils ne sont pas d'accord quant à la façon d'atteindre cette égalité dans les chances. Mais nous croyons que c'est un objectif qui en vaut la chandelle. Par la recherche fondamentale, par la recherche appliquée, nous pouvons obtenir des réponses sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour partir en quête de cet objectif. Nous pouvons avoir des discussions sur l'atteinte de ces objectifs. Nous pouvons faire aussi que des choses pour répondre à ces questions que soulèvent ces discussions. Et nous pouvons faire de plus amples recherches.
Basic research that informs applied research that then informs policy. I think that's...
Voilà ce que nous faisons. Nous voulons continuer à le faire. Je vous remercie de prendre cette question. C'est au sérieux et je vous remercie de votre contribution aujourd'hui et je l'espère. Vous savez, nous allons poursuivre ce travail. Nous avons obtenu donc des résultats intérimaires aujourd'hui de certaines des équipes. Nous avons eu des présentations remplies d'espoir d'autres équipes qui viennent de commencer leur cycle de financement. À la fin, nous aurons des résultats solides. Des équipes de recherche fondamentale, des résultats des équipes de recherche appliquées. Nous allons colliger le tout. Nous allons avoir une conférence. Cela sera publié. Comme John le disait, est-ce que ça devrait être dans des revues de recherche, dans des revues de politique? Est-ce qu'il devrait s'agir de rapports aux organismes gouvernementaux? Il y a plusieurs façons de faire rapport sur ces questions. Et tout ça a sa place et on va s'assurer d'aborder toutes ces possibilités de façon énergique. Alors, j'ai fini là de jouer au prêcheur. Maintenant, c'est le temps de remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont permis l'organisation de cette journée. Mireille Massey et son équipe, vous méritez une main d'applaudissements.
Yes, and a standing ovation, why not?
Et pourquoi pas une ovation? Merci beaucoup de votre venue. Merci beaucoup de vos présentations, de votre écoute, de votre contribution. Nous anticipons avec plaisir vos contributions à l'avenir. Jetez un coup d'œil aux affiches, posez des questions. Puis, Mélissa, quelques instructions à vous donner sur les photos. Oui, signez votre formulaire de renonciation si vous ne l'avez pas encore fait. Commentaire inaudible.
OK, pictures. So, see Mélissa about her instructions.
Allez voir Mélissa pour les instructions sur les photos. Il y a une question à l'arrière, question inaudible. Une main d'applaudissement pour notre maître de cérémonie. Écoutez, je travaille ici, c'est tout. Je suis un archéologue qui est tombé là-dessus. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée.